Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Je m'adresse à vous, ici, dans cette mairie de la province d'Auvergne, pour vous dire que je suis candidat à la présidence de la République française.
8 avril 1974, sur le perron de la mairie de Chamalières, Valéry Giscard d'Estaing annonce donc sa candidature à la présidentielle.
C'est dans cette même mairie qu'aujourd'hui les habitants de Chamalières sont venus rendre hommage à leur ancien maire, très attaché à cet ancrage auvergnat.
On sera sur place, bien sûr, dès le début de ce journal et on reviendra sur l'héritage de ce président moderne, sur ses réformes aussi qui ont bousculé la France et dont il était si fier.
Un président également profondément européen qui avait tissé une relation très forte avec l'Allemagne.
On reviendra aussi sur sa rivalité avec Jacques Chirac, 30 ans de guerre larvée, rivalité qui a culminé avec la trahison en 1981 qui a contribué à porter François Mitterrand au pouvoir.
Au sommaire également ce soir, Isabelle, vaccination, mode d'emploi.
On sera fixé théoriquement d'ici quelques minutes sur la stratégie vaccinale de la France qui va être présentée par le Premier ministre. Et puis, faire votre lessive au milieu de la nuit pour économiser de l'électricité. Arrêtez tout de suite, hein. L'offre des années 60, heure creuse, heure pleine, ne tient plus sa promesse. La Bourse de Paris a terminé ce soir en léger repli, moins 0,15% à 5574 points.
Et puis la tendance météo, bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Prudence dans les prochaines heures. Hein.
Oui, Météo France vient de placer le département des Hautes-Alpes en vigilance orange neige. Demain, le temps sera encore très agité dans l'ensemble du pays, avec de fortes chutes de neige. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Rarement donc une personnalité politique et un territoire auront été aussi liés. Quand on pense à Valéry Giscard d'Estaing, on pense tout de suite à l'Auvergne et en particulier à la petite ville de Chamalières dans le Puy-de-Dôme.
Dont il fut le maire pendant 7 ans et où l'on a donc logiquement envie d'être ce soir. Après l'annonce de la disparition de l'ancien président Jean-Luc Bougeon, un registre de condoléances a été installé dans cette fameuse mairie.
Oui, qui est aujourd'hui dirigé par le fils de l'ancien président, Louis Giscard d'Estaing. Le registre a donc été mis à disposition des habitants en début d'après-midi avec, tout à côté, une photo de l'ancien président. Sylvain n'était pas né lorsque VGE était au pouvoir. Pourtant, il a tenu à venir griffonner quelques mots d'hommage.
J'ai écrit que c'était la disparition d'un grand homme qui a œuvré pour l'Auvergne et pour l'Europe. Voilà. Nous, du côté de l'Auvergne, qui a construit la Grande Halle et puis Vulcania, qui sont quand même des grosses œuvres, c'est effectivement une fierté pour nous.
Voilà, ici, les gens lui sont reconnaissants d'avoir contribué à placer l'Auvergne sur une carte de France, d'Europe et même du monde. Il a aussi beaucoup œuvré pour relier Clermont-Ferrand à Lyon, Paris, au sud de la France, avec la construction de plusieurs autoroutes lorsqu'il était président du conseil régional. Donc ici, on admire le grand bâtisseur, même si certains émettent quelques réserves.
C'est un personnage ambivalent, quelqu'un qui pouvait vous montrer une familiarité sympathique et puis de temps en temps, il restait sur son grand assoir, il était dans son monde.
Compte tenu de son éducation, et de sa stature pouvait paraître aux gens distants et il souffrait de ne pas pouvoir avoir ce contact naturel vis-à-vis des gens.
Voilà, c'est pour cela qu'il s'éloignera de Chamalières à la fin des années 2000, battu aux élections régionales, puis aux municipales à Clermont-Ferrand et il finira par trouver les Auvergnats ingrats vis-à-vis de lui et de ses réalisations, un peu comme les Français quelques années auparavant.
Jean-Luc Bougeon à Chamalières, donc dans le Puy-de-Dôme pour Europe 1.
Alors, pas facile de résumer une carrière politique aussi riche que celle de Valéry Giscard d'Estaing, lui qui a effectué plusieurs réformes de sociétés emblématiques durant son septennat.
Avec toujours cette volonté de moderniser le pays, volonté qui se manifestera surtout pendant ses 2 premières années à l'Élysée, des réformes dont il était très fier.
Moi j'ai commencé les réformes dès mon élection. Vous vous rappelez peut-être, c'est un peu loin, hein, mais j'ai été élu au mois de mai, et c'est avant le mois de juillet qu'on a abaissé l'âge électoral en France, et qu'on a fait voter les jeunes Françaises et les jeunes Français à partir de 18 ans. C'est au mois de septembre-octobre qu'on a réformé la législation sur l'avortement. On a commencé le débat à ce moment-là, on l'a terminé dans les 2 mois. C'est avant Noël qu'on a réformé ce qu'on appelait la saisine du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire le fait, pour l'opposition, parce que c'était ça, de saisir le Conseil constitutionnel quand il jugeait une loi excessive.
Valéry Giscard d'Estaing sur Europe 1 en 2008, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, on pourrait évoquer aussi le divorce par consentement mutuel, la refonte de l'audiovisuel, le collège unique ou encore le regroupement familial pour les migrants.
Et bien sûr, l'ancien président est indissociable de l'Europe.
Infatigable défenseur de la construction européenne, il a en partie façonné l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Avec la création en décembre 1974 du Conseil européen, en 1978, c'est lui qui, avec Helmut Schmidt, propose la création du système monétaire européen, préfiguration évidemment de l'union monétaire et de l'euro.
Une Europe qu'il avait clairement dans son ADN.
Mesdames, Messieurs, meine Damen und Herren, Signore e signori, si nous réussissons, vous pourrez vous séparer et revenir chez vous en ayant le sentiment d'avoir contribué à écrire un chapitre nouveau de l'histoire de l'Europe.
Valéry Giscard d'Estaing, en février 2002, lors de l'ouverture de la Convention sur l'Europe qu'il présidait.
L'Europe et l'Allemagne, bien sûr. La France perd un homme d'État, l'Allemagne un ami. Et nous tous, un grand Européen, dit aujourd'hui la chancelière Angela Merkel.
Oui, l'Allemagne avec qui l'ancien président a toujours eu une relation très forte, hein, lui qui est né outre-Rhin et qui a contribué à relancer les relations franco-allemandes. Hélène Kohl est la correspondante d'Europe 1 à Berlin.
À Koblenz, sur les bords du Rhin, il y a une plaque à l'endroit où se tenait la maison de naissance de Giscard d'Estaing. Son père était militaire et faisait partie des troupes françaises qui occupaient la région après la Première Guerre mondiale. VGE n'oubliera jamais ses années rhénanes, allant jusqu'à inviter à l'Élysée sa nourrice de l'époque, une certaine Mathilde. Quand il était à Paris, il fréquentait la mission catholique allemande pour suivre des offices dans la langue de sa prime jeunesse. En 1980, il se rend en Allemagne pour un voyage officiel. On a du mal à le croire aujourd'hui, mais après le général de Gaulle en 1962, ce n'est alors que la deuxième fois qu'un président français se rend en RFA.
Ici, à Bonn, je vous rends visite en voisin, avec le souhait de voir nos deux peuples apprendre à mieux se connaître.
Il montre l'exemple avec sa relation étroite avec le chancelier Helmut Schmidt d'un autre bord politique, mais un véritable ami, un ami fidèle, dira Giscard d'Estaing à la mort de Schmidt il y a 5 ans. Sur la scène européenne, les deux hommes vont agir de concert et changer la donne, notamment en créant le système monétaire européen qui a ouvert la voie à l'euro. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Valéry Giscard d'Estaing, qui, dans son pays, n'avait pas que des amis, hein, ça n'existe pas en politique, mais lui avait un ennemi en particulier contre lequel il gardera beaucoup de rancœur.
Oui, un certain Jacques Chirac, un demi-siècle d'incompréhension et de méfiance. Au départ, pourtant, ces deux-là avaient fait alliance.
Oui, on va vous raconter dans un instant d'ailleurs comment les choses se sont dégradées entre les deux hommes. Mais d'abord, écoutez cette anecdote assez surréaliste. Hein. Nous sommes entre les deux tours de la présidentielle de 1980, Giscard contre Mitterrand. Chirac, qui a créé entre-temps, le RPR déclare du bout des lèvres qu'à titre personnel, il votera Giscard au second tour, sauf que Giscard n'y croit pas et il appelle alors lui-même en douce le QG du RPR pour en avoir le cœur net. Alors,
j'ai eu une idée un peu bizarre. Hein. Je me suis dit de faire l'expérience moi-même. J'ai appelé. Alors évidemment, c'était un peu spécial. J'ai dit, voilà, j'appelle parce que je suis troublé. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous me conseillez de faire. Ah bon ? Ah bon ? Je dis, voilà, moi, je m'apprête à voter pour Giscard, parce que... Ah non, 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 non. Je dis, quand il ne faut pas voter... Ah, surtout pas ! Ah oui, non, non, surtout pas ça. Puis j'ai raccroché. Mais ça m'a fait une espèce d'impression humaine très, très forte, hein, de l'entendre.
Voilà, Valéry Giscard d'Estaing qui raconte plus tard donc ce coup de fil surréaliste, hein, en 1981, lors de l'entre-deux-tours.
Alors, avant cet épisode, il y a eu la rupture. Racontez-nous, Adrien Becht.
Micros et caméras sont installés dans un bureau de Matignon. Nous sommes le 25 août 1976. Le tandem Chirac-Giscard est terminé.
Je viens de remettre la démission de mon gouvernement. Je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions. Le Premier ministre.
Divergence, mauvais résultat au cantonal et surtout incompatibilité d'humeur, comme on dit. Le divorce est brutal. En fait, tout sépare les deux hommes malgré leur parcours parallèle. 1969, Giscard est ministre des Finances, Chirac son secrétaire d'État au budget. Les deux se jaugent, entente de circonstances. 1974, le Corrézien soutient l'Auvergnat et se retrouve à Matignon. Le président note déjà l'obsession présidentielle de son Premier ministre. Voilà le divorce, puis la trahison. 1981, inédit sous la 5e, un ancien Premier ministre se présente contre le président qu'il a nommé.
Je viens ce soir vous dire très simplement au revoir.
Puis vient 1995, la hache de guerre semble presque enterrée. Celui qui est alors président du Conseil régional d'Auvergne soutient Jacques Chirac à la présidentielle. Mais ce n'est qu'apparence. Chirac président, Giscard ne mettra jamais les pieds à l'Élysée. Fin des années 2000, retiré au Conseil constitutionnel en leur qualité d'ancien président. Chirac d'un côté, Giscard de l'autre sortent encore les griffes. Jusqu'au bout, un duo, un duel et plusieurs chapitres à eux deux de la Ve République.
Le récit d'Adrien Beck du service politique d'Europe 1. En raison de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron reporte de 24 heures l'interview qu'il avait prévu de donner aujourd'hui aux médias en ligne brut, interview à destination des jeunes.
Oui, le chef de l'État a prévu en revanche de rendre hommage à son prédécesseur ce soir à 20h, une interview que l'on suivra ensemble en direct sur Europe 1. À noter également qu'on aura jusqu'à 20h un certain nombre d'invités prestigieux, Jean-Pierre Raffarin notamment à 18h20 ou encore l'ancien Premier ministre Alain Juppé à partir de 19h15.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h12, on parle maintenant de la stratégie vaccinale pour la France. Le Premier ministre Jean Castex, Isabelle, en détail les contours en ce moment.
Alors tout n'est pas encore arrêté, mais on a quand même les grandes lignes. Hein, Jean-Gabriel Bourgeois, on sait que les résidents des EHPAD et le personnel qui les accompagne seront prioritaires, mais pour les autres, ça va se passer comment cette vaccination?
Eh bien tout d'abord, il faut rappeler que le vaccin ne sera pas obligatoire. Hein. Une stratégie de vaccination a été recommandée avec plusieurs phases, priorité aux résidents des maisons de retraite, ainsi qu'au personnel des EHPAD, fin décembre, début janvier. Ce sera ensuite le tour du grand public au printemps, en fonction de votre âge, votre état de santé ou encore votre métier. Combien cela va coûter? Alors, le ministère de la Santé n'a pas encore précisé si le vaccin serait remboursé à 100%, mais selon toute vraisemblance, ça devrait l'être, comme ça se passe en ce moment pour les tests PCR. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas une piqûre, mais bien deux injections intramusculaires dans le bras espacées de 3 ou 4 semaines selon les vaccins, des injections administrées par les professionnels de santé, à l'hôpital, dans les pharmacies, mais aussi par les médecins généralistes qui connaissent les patients les plus vulnérables et qui sont les mieux placés pour rassurer des Français parfois réticents à l'idée de se faire vacciner. Des peurs notamment en raison des effets secondaires. Et les spécialistes que j'ai interrogés sont formels, il pourra y en avoir comme avec n'importe quel autre médicament. Fièvre, fatigue, rougeur, douleur musculaire, pas vraiment de quoi inquiéter. Mais ces spécialistes réclament plus de transparence, car les essais cliniques des laboratoires n'ont pas encore été rendus publics. Ils sont entre les mains des autorités sanitaires qui vont décider de la mise sur le marché du vaccin avant le 29 décembre. Vient de préciser à l'instant le Premier ministre.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, le Premier ministre qui recommande également une jauge de 6 personnes, sans compter les enfants, pour le réveillon de la Noël ou du Nouvel An. Et maintenant, cette info qui vous concerne directement, si comme près de la moitié des foyers français, votre contrat d'électricité applique le tarif heure pleine, heure creuse.
Attendre 22 heures pour lancer votre lave-vaisselle, ça vous dit quelque chose? Faire fonctionner votre ballon d'eau chaude la nuit pour faire baisser la facture? Eh bien, on a tous ce réflexe. Pourtant, vous nous le révélez, Élise Dangean, ça ne sert pas à grand-chose.
Et oui, c'est la conséquence d'une lente dégradation de l'attractivité de cette offre, constatée et confirmée par bon nombre d'acteurs du secteur. Car depuis la fin des années 2000, le prix de l'électricité en heure creuse n'a fait qu'augmenter. Conclusion aujourd'hui, pour que ce tarif soit rentable, il vous faudrait consommer la moitié de votre électricité de nuit, contre 30% auparavant. Ceux qui y souscrivent auraient donc tout intérêt à repasser sur une offre de base, explique Vincent Maillard, le fondateur de Plume Énergie, qui appelle la filière à une prise de conscience.
La plupart gagneraient en moyenne autour de 45 à 50 euros. Mais encore une fois, l'idée, ça serait pas de dire on les met sur l'offre base, l'idée serait plutôt de dire eh bien, on fait en sorte que l'offre hors plein creuse reste attractive pour éviter qu'ils aillent sur une offre qui est collectivement moins avantageuse. Et les offres hors plein creuse, encore une fois, elle est intéressante. Elle a un sens.
En effet, elle permet de lisser les pics de consommation d'électricité, mais aujourd'hui, elle n'a de sens que pour une partie de la population, selon EDF, qui reconnaît le problème. Il s'agit des clients qui ont un chauffe-eau électrique, une voiture électrique ou encore une piscine.
Eh bien, merci beaucoup, Élise Dangean.
On en apprend des choses. Merci, Élise. Merci, Isabelle. À tout à l'heure, 18h30, le rappel des titres, et à 19h pour le journal La Météo, avec Anissa qui nous a rejoint, 18h16, et qui nous annonce, attention, danger, un temps très agité demain, avec un département en vigilance orange.
Oui, le département des Hautes-Alpes est placé cette nuit et demain en vigilance orange neige, parce qu'en effet, dans les prochaines heures, sur les Alpes, les chutes de neige seront très importantes et à basse altitude. Demain, le temps est très pluvieux, dès le début de journée, des Pyrénées à la Franche-Comté. De toute façon, demain, il va faire gris sur toute la France. Sur le Pays Basque, le bassin méditerranéen et la Corse, attention, les pluies vont devenir orageuses et ça pourra tonner fort. À l'arrière de cette perturbation, le temps est très couvert sur l'ensemble du pays. Il n'y a que sur l'Île-de-France, le centre et la Normandie que le soleil fera des apparitions. Les températures un peu moins froides demain matin, avec -1 à Vannes, 5 à Paris et 7 à Nice.
Merci Anissa.